Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur? Qu'est-ce que le Bitcoin? Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Bitcoin. Dans les épisodes précédents, on s'est baladé dans le zoo du Bitcoin et on a eu le temps de découvrir le Bitcoin en isolation. Malheureusement, le Bitcoin s'est échappé il y a longtemps et c'est désormais en safari qu'il faudra l'étudier. On va désormais parler de Bitcoin dans le monde réel. Dans le monde réel, ta monnaie se dévalue de plus en plus vite parce que les banques centrales sont forcées d'imprimer de plus en plus d'argent. Pourquoi ? Simplement parce que les dettes des États, des compagnies et des ménages sont impayables. Et pour éviter que le système s'effondre quand on réalise que personne ne va payer ses dettes, les banques centrales doivent créer de l'argent pour racheter les dettes. Cette création monétaire diminue la valeur de ta monnaie. S'il y a deux fois plus d'euros en circulation et que ton salaire n'a pas doublé, ton pouvoir d'achat vient d'être divisé en deux. Alors, mon conseil à toi pour gérer ce risque de dévaluation, c'est simplement de mettre en place aussitôt que possible un plan d'achat récurrent de Bitcoin. Tu peux commencer avec 20€ ou 20$ par mois, cela t'amènera petit à petit à constituer une épargne en Bitcoin, au cas où l'euro et le dollar continuent à perdre de la valeur comme ils le font depuis des années. Mettre en place ce plan d'épargne te permet de t'assurer un avenir où tu préserves, voire même améliores ton pouvoir d'achat. Si tu penses que c'est trop tard parce qu'il est à 50 000€ ou 75 000$ canadiens, sache qu'un jour il sera à 220 000€, et puis à 380 000, et puis 1 million, et puis 10 millions. Donc le meilleur moment pour commencer avec Bitcoin, c'est toujours aujourd'hui. Et pourquoi je te raconte tout ça? C'est parce que je crois que chaque individu est rempli de potentiel, donc toi aussi. Mais je pense que c'est difficile de libérer son énergie quand on ne peut pas l'accumuler et la stocker. Donc mon pari, si tu veux, c'est que dans le futur, parce que tu auras épargné des Bitcoins, tu auras plus de temps libre pour réfléchir, profiter du temps, vivre bien et aider les autres. Ainsi, tu aideras l'humanité et moi par la même occasion. Aujourd'hui, je rencontre Jonathan Erskovici de Stackinsat pour te parler de tout ça. Stackinsat est une des compagnies que j'étais recommandée dans les épisodes précédents parce qu'elle permet aux Européens de mettre en place un plan d'épargne Bitcoin. Je rencontre Jonathan pour que tu puisses mettre un visage et une voix derrière la compagnie parce que derrière tout ce qui se fait en Bitcoin se trouvent des passionnés qui construisent les outils du futur. On commence l'épisode par le passé de Joe et de sa période blockchain bullshit comme il l'appelle. Si tu es fan de la technologie blockchain et d'altcoin, tu écouteras cette partie à tes risques et périls. Ensuite, il nous partage ses conseils aux gens qui achètent pour la première fois et nous parle des enjeux auxquels ces personnes font face. Dans l'épisode, tu verras qu'on utilise le terme no-coiner. C'est simplement quelqu'un qui n'a jamais acheté de Bitcoin. A priori, c'est par là qu'on commence tous et toutes. Ensuite, vers la fin de l'épisode, on va parler du Bitcoin dans le futur et comment le Bitcoin est un moteur de décroissance. Je te souhaite une belle écoute, c'est parti. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Erskovici, fondateur de Stackinsat, le plan épargne Bitcoin. Jonathan, bienvenue.
Merci Emmanuel, c'est un honneur pour moi de participer à ton podcast.
Merci à toi. On va commencer par revenir sur ton passé d'abord. Alors ma première question pour toi, ce serait Jonathan, avant d'arriver sur Stackinsat, quand et comment ton intérêt pour le Bitcoin est apparu ?
Alors écoute, question évidemment assez basique mais fondamentale. Donc moi je vais revenir un peu sur mon parcours pour que tu comprennes un peu le contexte. Donc moi en fait je suis un pur financier, c'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce et un master spécialisé en finance. J'ai démarré ma carrière à la Société Générale, particulièrement dans une société qui s'appelle Lyxor, qui est une société spécialisée en innovation financière. Et j'ai eu la chance, finalement, de subir la crise financière de 2008 en pleine tête, vu que c'est ça qui a provoqué mon départ de la Société Générale, parce qu'évidemment, j'étais un des derniers arrivés, donc un des premiers à sortir. Et si jamais, si je n'avais pas eu cette chance de partir à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, je serais encore banquier. Alors peut-être pas à la Société Générale, mais j'aurais un parcours assez traditionnel de financier, ayant fait du coup des études en finance dans une école de commerce française. Mais du coup, j'ai eu cette chance de pouvoir partir de la Société Générale et donc de créer finalement mes velléités entrepreneuriales. Parce que moi, clairement, je n'avais pas spécialement envie de monter des boîtes, mais c'est finalement cette opportunité qui m'a été donnée, qui m'a donné l'envie justement de commencer à créer des boîtes. À ce moment-là, donc moi, je travaillais donc en salle des marchés, donc j'étais sur un desk de sales trading, notamment sur les variants swap, enfin tout ce qui était produit de gestion alternative. Et donc, du coup, j'avais accumulé quelques skills en développement d'algorithmes, hein, tout simplement. Et finalement, vu que je m'ennuyais, vu que je ne trouvais pas de taf à l'époque, hein, parce qu'évidemment, pendant la crise, il n'y a plus de job, et ben, en fait, je me suis amusé à créer un algo de gestion de portefeuille pour mon usage personnel et placer finalement l'argent que j'avais reçu de mon départ de la Société Générale. Et l'outil, en l'occurrence, a plutôt bien marché. Et j'ai décidé, finalement, avec le soutien de mes amis de l'époque, qui me disaient que je devais me lancer, donc de monter une start-up qui, justement, permettait de proposer des outils assez sophistiqués et les rendre, justement, accessibles au grand public. Donc, c'est le début de mes ambitions entrepreneuriales, vu que, en fait, cette start-up donc, que j'avais appelée Anatech à l'époque, a beaucoup évolué pour donner en fait ensuite ce qui a donné la boîte qui s'appelle WeSave, qui globalement est un robot advisor. Donc ça, c'est effectivement un nom que je n'aime pas trop parce que justement, on misait beaucoup sur l'humain, sur l'accompagnement et le conseil. Mais en tout cas, c'est ce que les observateurs aimaient nous appeler, hein, tout simplement robot advisor. Donc ça, j'ai créé la boîte, si je ne dis pas de conneries, en 2011. Ensuite, on a eu la chance de gagner le concours mondial d'innovation en 2014 avec cette startup. Et c'est là où, en gros, la boîte a commencé vraiment à exploser. On a justement eu la chance d'accueillir un très bel actionnaire dès 2014. Et il se trouve que quelques années plus tard, c'est ce même actionnaire qui nous a racheté, hein, qui a racheté l'intégralité de la société, enfin des actions de la société. Mais pour te répondre à ta question, qui était comment est-ce que je suis tombé dans Bitcoin, c'est justement dans ce contexte-là, qui est celui où moi j'ai évolué toute ma vie dans le trading et la finance, et j'ai découvert Bitcoin, en fait j'en avais entendu parler assez tôt, mais je m'y étais absolument pas du tout intéressé, et c'est plutôt en 2017, début 2017, parce que moi en gros j'ai un parcours, encore une fois, comme je viens de le dire, de financier. Et en fait, ce qui m'intéressait dans Bitcoin, c'était non pas l'aspect fondamental qui ne m'intéressait absolument pas. Moi, en fait, l'idée, c'était tout simplement d'utiliser cet actif ultra volatile pour spiler et faire du scalping. Donc ça, c'était clairement mon ambition. Et c'est ce que j'ai fait à partir de début 2017, donc uniquement à faire des allers-retours sur Bitcoin sans du tout m'intéresser au fondamental. Et derrière, finalement, en voyant et en commençant à m'intéresser un peu plus, et notamment le bullrun de 2017, où là, j'ai commencé à réaliser qu'on était vraiment sur quelque chose de game changer. Et c'est là où je pense, de toute façon, on y abordera peut-être un peu plus tard dans l'interview, mais je me suis intéressé beaucoup aux shitcoins, beaucoup aux ICO, et j'ai commencé justement à trader tout simplement autre chose que le Bitcoin. Et je croyais beaucoup en la révolution blockchain. Voilà, donc le fameux blockchain bullshit auquel je croyais vraiment sincèrement à ce moment-là. En tout cas, clairement, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je voulais travailler dans cet univers. Le problème, c'est que j'étais donc CEO d'une boîte qui n'avait évidemment aucune ambition de proposer du Bitcoin parce c'était une boîte quand même extrêmement traditionnel, même si on innovait sur les produits sous-jacents, parce qu'en fait on proposait une allocation d'actifs basée sur des ETF. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie-là, mais clairement c'était hors de question qu'on arrive à proposer du Bitcoin à nos clients à ce moment-là. Donc voilà, de fil en aiguille, finalement la boîte a été vendue début 2019 et j'ai pu finalement me consacrer pleinement à cette ambition de créer une boîte dans cet univers. Donc voilà, du coup, peut-être ça répond à ta question, parce que sinon je peux partir en roue libre pendant 3 heures. Je ne sais même plus quelle était la question.
Alors pour reprendre, c'était de voir quand et comment ton intérêt est apparu. Donc si je prends le résumé un petit peu, ça fait 2008 perte d'emploi, 2011
Oui.
lancé d'un nouvel outil, 2014 grosse compagnie, explosion, et puis vers 2019-2017, là c'est plus la transition vers l'univers blockchain où tu me dis qu'à ce moment-là tu croyais beaucoup au blockchain bullshit. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le blockchain bullshit d'après toi et puis comment d'un statut d'amoureux de ce blockchain, tu t'es mis à changer pour plutôt te dire, tiens, finalement, le Bitcoin est plus important. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire cette
Alors ça,
rotation et qu'est-ce qui te
ça a
justifiait?
été évidemment un très long processus. Et là, je ne peux que citer mon ami Thibaut Maréchal, qui d'ailleurs a fait une très belle interview sur un podcast concurrent que je ne traiterai pas, mais du coup qui pour moi est parfaite, reflète parfaitement ma vérité. C'est on est tous shitcoiners avant de devenir maximaliste. Et en tout cas, je me reconnais parfaitement dans cette description. Et donc, je vous invite tous à vraiment aller écouter ce podcast. Mais globalement, si tu veux, donc moi, encore une fois, pour te remettre dans le contexte, moi, j'ai vraiment un parcours de financier assez classique, finalement, où déjà, je portais des costards tous les jours. J'évoluais dans un monde de banquiers où, effectivement, le marketing est quand même omniprésent. Et effectivement, nos amis d'IBM à l'époque, parce que je crois que c'est notamment eux qui ont inventé, en tout cas qui sont à l'origine du mot blockchain, qui évidemment, cette punchline, elle est extraordinaire. Quand tu dis à tes potes, je suis dans la blockchain, bah forcément, en fait, tu as toujours l'air intéressant et intelligent. Donc, je pense que ça a beaucoup joué. Et je pense que ça joue de moins en moins aujourd'hui, heureusement. Mais en tout cas, à l'époque, cette terminologie, cette punchline marketing était vraiment, vraiment très, très forte, très impactante. Et quelque part, j'ai été un peu hypnotisé par ce truc-là, avec toutes les promesses que ça impliquait, et finalement toutes les révolutions et toutes les promesses qu'on me promettait à cette époque-là. Et clairement, j'ai été totalement hypnotisé par ces révolutions potentielles, les ICO, etc. Enfin bref, en gros, comme beaucoup, hein, je pense que clairement, je ne me sens pas isolé par rapport à cette évolution. Mais en tout cas, à ce moment-là, clairement, c'était
Ton
mon
illusion.
orientation, qui n'était pas voilà, ma vision, qui était non pas Bitcoin, parce qu'en fait, j'étais clairement dans ce truc, Bitcoin, c'est mal, évidemment. Hein. Bitcoin, c'est le dark web. Bitcoin, c'est pour blanchir de l'argent, etc. Donc j'avais clairement ces a priori-là, qui évidemment étaient véhiculés en plus dans les médias traditionnels, dans mon cercle professionnel. Et finalement, vu qu'on est dans un entre-soi, on n'a pas forcément de contradicteurs et de contradictions. Donc on a tendance à aller à suivre comme un mouton, en fait, hein, tout simplement. Finalement, qu'est-ce qui m'a permis de switcher? De ce point de vue-là, bah, c'est tout simplement mon associé Joss, hein, qui est mon associé actuel, mon cofondateur. En gros, je suis parti en fait l'été où je savais que la vente de ma précédente startup était en cours. Je suis parti justement parce qu'en fait mon associé Joss a vécu pas mal d'années à Montréal aussi. Et du coup, je suis parti le voir. C'est une quinzaine de jours, je sais même plus. Et lui, pour le coup, contrairement à moi, est parfaitement maximaliste. D'ailleurs, ce serait intéressant que tu refasse un podcast avec lui pour que lui te raconte son parcours et comment est-ce qu'il a été imprégné de ce maximalisme. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'était mon meilleur pote. J'allais le voir au Canada et on avait une vision assez différente l'un de l'autre, mais voilà, on avait des discussions parfaitement saines et avec des arguments et des contre-arguments. Et finalement, c'est lui qui, en tout cas, a commencé à me mettre cette pilule orange, en tout cas qui m'a red-pilé, on va dire, hein, même si c'est pas très français ce que je dis, mais en tout cas c'est assez parlant. Et c'est lui qui a commencé vraiment à me guider vers le maximalisme. Donc à ce moment-là, je n'étais absolument, je l'étais pas, hein, mais disons que ça m'a réouvert l'esprit sur ce qu'était Bitcoin. Donc ça, c'était à l'été 2018, si je dis pas de bêtises. Et donc moi, je savais que je voulais créer une boîte avec lui dans l'industrie blockchain crypto. Bon, ça ne veut strictement rien dire, mais je savais qu'il y avait un truc à faire là-dedans. Et donc ça, c'est mon côté entrepreneur. Et moi, j'aime bien tout ce qui est chaotique et j'aime bien justement simplifier tout ce qui est complexe. Donc là, pour moi, c'était un terrain de jeu idéal. De là, donc on s'était dit qu'on allait monter une boîte ensemble. On ne savait pas trop quoi. Donc moi, je savais que j'allais vendre ma boîte. Donc j'allais avoir un peu d'argent qui allait arriver dans pas longtemps. Et finalement, je voulais orienter mes investissements en startup, en tant que business angel, dans cet univers blockchain et aussi, du coup, l'univers que je maîtrise le mieux, qui est celui des fintechs, ou plus généralement ce qui concerne l'innovation financière. Donc janvier 2019, je vends ma boîte. Il se trouve que donc j'ai habité Paris pendant 15 ans. J'ai décidé vraiment de tourner la page de cette vie parisienne en venant vivre définitivement à Biarritz. Et donc j'ai acheté voilà, des appartements ici pour m'installer. Et j'ai commencé justement à investir dans des startups. Et Joss, qui lui était toujours à Montréal, on travaillait à distance et c'est lui qui, du coup, avec une vraie ouverture d'esprit, parce que moi j'étais quand même convaincu de ce côté, enfin, je n'étais pas convaincu, mais disons que je voulais vraiment avoir les chakras ouverts. Voilà. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir d'a priori sur je veux faire que du Bitcoin ou je veux faire que des ICO ou que des altcoins, etc. Je me cherchais encore en fait. Et de là, en fait, j'avais créé donc ma holding, donc qui investissait dans des startups. Et Joss était un petit peu mon analyste. C'est lui qui, notamment, rentrait dans les dossiers. Alors moi aussi, évidemment, je rentrais dans les dossiers, mais lui, il avait une culture crypto plus importante que la mienne. Donc voilà, pendant 6 mois comme ça, on a bossé à distance. Là, en fait, j'ai fait une dizaine, enfin un peu moins d'une dizaine d'investissements startups. Et justement, je vais arriver au moment où j'ai réalisé que, en fait, plus le temps passait entre janvier 2019 et l'été 2019, plus je recevais le dossier et plus je voyais que les gens, enfin, en tout cas, les entrepreneurs, les fondateurs, employaient ce mot blockchain à tout va. Voilà. Donc, c'était du name dropping, blockchain par-ci, blockchain par-là, intelligence artificielle, big data. Voilà, du coup, c'était, tu sais, les punchlines qui, dans un slide deck de levée de fonds, ça fait toujours bien. Et d'ailleurs, souvent, je sors cet exemple-là, mais d'ailleurs, je n'ai même plus la référence exacte. Mais je crois qu'une entreprise du Nasdaq, à peu près la même période, avait changé son nom et mis blockchain dedans. Et je crois que la boîte avait pris 300% en 2 jours, ou je sais même plus exactement. Je ne sais pas si tu connais cette histoire.
Ouais, ça me dit quelque chose.
Voilà, enfin bref. Voilà, Ice-T Blockchain. Enfin bref, donc là, c'était pour moi la quintessence du blockchain bullshit. Et en fait, finalement, tous ces petits éléments au fur et à mesure, il y a eu un processus intellectuel. En fait, je me suis méfié, donc je commençais à me méfier de plus en plus. Et vraiment, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est en fait le côté monnaie digitale de banque centrale. Donc là, je me suis dit, en fait, ce truc-là, en rentrant, parce qu'en fait, plus je rentrais dans la technique, plus je commençais à comprendre vraiment les enjeux et ce que ça allait impliquer à la fois d'un point de vue économique, financier, sociétal, voire même philosophique. Et je pense que ce qui a été le déclic, d'ailleurs, je crois que j'ai même balancé un tweet que je pourrais te rebalancer, qui justement, donc ça, je crois que c'était à l'automne 2019. D'ailleurs, au moment où j'étais, parce qu'il se trouve que moi, à ce moment-là, je suis parti en Amérique du Nord. Donc à Montréal et à New York pour justement découvrir un peu l'écosystème entrepreneurial. C'est là où j'ai rencontré notamment les équipes de Bull Bitcoin et donc aussi ceux de Verify, de Nox. Donc je recite Thibault Maréchal qui travaille chez Nox également. Donc voilà, pareil, je pense que je suis en roue libre, je ne sais même plus quelle était ta question.
T'inquiète, moi je suis très bien. Donc ma question, c'était la rotation du blockchain bullshit. Donc là, tu nous as expliqué comment tu as été hypnotisé par la chose. Donc là, c'était plus l'aspect marketing. D'un coup, j'ai l'air intelligent. Et ensuite, à force de baigner dans cet environnement, à force de voir plusieurs fois des choses plusieurs compagnies différentes qui utilisent les mêmes vocabulaires pour des choses qui ont par rapport, et toi, en même temps que tu as un progrès technique, tu as commencé à développer une capacité d'analyse plus fine qui t'a commencé à te faire comprendre, tiens, c'est bizarre ce qui se passe, quoi. Donc c'est ça le fil que tu as pris. Et puis là, tu nous expliquais comment tu avais rencontré les. Je dirais. Parce que quand tu pars de Biarritz pour aller voir Nox, Verify et Bull Bitcoin à Montréal, ben là, tu pars voir des compagnies qui sont Bitcoin exclusivement. Donc forcément, j'imagine que dans ton parcours, ça a dû avoir un impact sur ta réflexion sur la technologie
Alors, après
blockchain, entre
aussi,
guillemets.
je pourrais te citer une anecdote. Alors, après, je vais pas citer l'entreprise en question. Mais si tu veux, moi, en fait, dans ma précédente vie, j'ai jamais vraiment apprécié comment dire, les sociétés de conseil en stratégie. Et en fait, ces
Je vois.
gens-là, pour moi, alors, je caricature un peu et j'espère que les gens qui vont nous ne vont pas prendre ça trop mal. Mais en général, ce sont des gens qui, effectivement, ont le cerveau plutôt bien fait, qui sortent de grandes écoles, etc. Mais en fait, ces mecs-là, ils n'ont jamais rien fait, quoi. C'est-à-dire que, à part faire des slides et effectivement avec leur cerveau bien fait, etc., sont des gens qui n'ont aucune expertise de terrain, d'entrepreneur, de capacité à prendre des risques. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas d'ailleurs parce que je t'ai entendu rigoler, donc je pense que tu dois
Oui,
peut-être presque partager mon avis. Et donc, pourquoi je te dis ça, c'est que j'ai rencontré donc un des partenaires d'une grande société de conseil à Montréal, et qui m'a dit s'il y a, parce que justement je lui ai demandé, voilà, est-ce que tu n'aurais pas des mecs à me présenter dans l'écosystème à Montréal ou au Canada plus largement. Il me dit, alors je peux te présenter des mecs, mais il y a surtout un mec toxique qu'il ne faudra jamais rencontrer, c'est Francis Pouliot.
Ouais.
Alors quand il m'a dit ça, je me suis dit, tiens, c'est pile poil le mec qu'il faut que je rencontre. Et c'est ce que j'ai fait derrière. Donc on a rencontré les équipes de Blue Bitcoin et j'ai réalisé que bah, qu'en fait ce fameux partenaire d'un grand cabinet de conseil bah, était totalement à côté de la plaque parce que justement en discutant avec les équipes de Blue Bitcoin, j'ai bien compris que en fait c'était là où il y avait un vrai truc à faire. En tout cas, je commençais vraiment. Enfin, tu sais, ça a été tout un processus entre la vente de ma boîte en janvier 2019. Et l'automne 2019, où je commence justement effectivement à rencontrer plutôt des maximalistes, t'as raison, entre les mecs de Verify, entre les mecs de Bull Bitcoin. Après, je suis aussi allé à New York, où là, j'ai rencontré plus des VC qui, eux, forcément, investissent dans tout type de boîtes, et pas forcément des boîtes Bitcoin-only, mais même clairement pas que des boîtes Bitcoin-only. Mais en fait, j'ai pas forcément adhéré à cette vision-là. Et là où je me reconnaissais un peu plus, c'était finalement dans la vision... Bah, des mecs plutôt de Montréal, donc Blue Bitcoin et Verify. C'est là où on a eu l'idée, même si d'ailleurs Joss, mon associé, lui, m'avait toujours dit que c'était une société Bitcoin-only qu'on devait créer. Moi, j'avais encore des doutes au tout début, mais quand, encore une fois, j'ai mûri dans cette démarche intellectuelle pour arriver finalement à l'automne 2019 à cette idée de créer finalement une solution extrêmement simple. Et donc c'est notamment en fait les mecs de Blue Bitcoin hein, qui m'ont fait arriver comment dire, à cette conclusion-là. Un produit qui permettrait au plus grand nombre de comprendre Bitcoin et d'acheter ses premiers Bitcoins. Et là, la stratégie de Dollar Cost Average, que je connaissais évidemment depuis très longtemps, hein, m'est parue comme une évidence. Et c'est surtout la punchline qu'on a trouvée, qui était la punchline du plan épargne Bitcoin, parce que je savais que ça en France, vu qu'en fait les produits financiers c'est quand même beaucoup aussi du marketing, hein, il faut pas être naïf par rapport à ça. Et en fait la punchline plan épargne Bitcoin, je me suis dit que ça allait vraiment cartonner. Et c'est là en fait où les étoiles se sont alignées, où j'ai vu la lumière, j'ai vu, voilà, enfin clairement il y a eu une illumination dans mon cerveau à ce moment-là. Et c'est là où clairement je me suis dit qu'on allait lancer donc le plan épargne Bitcoin. Donc c'est très simple, hein, c'est une stratégie qui permet de s'exposer sur Bitcoin à long terme en investissant des petites sommes d'argent, enfin d'ailleurs des petites sommes, pas forcément, mais en tout cas à partir de 10 euros, mais à intervalles de temps réguliers, donc à la semaine ou au mois, pour stacker des satoshis. Hein, d'ailleurs, le nom, ça a été aussi un très long débat avec Joss. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est extrêmement fiers de ce nom parce que c'est vraiment l'ADN de la boîte et ça représente clairement notre vision de maximaliste. Parce qu'évidemment, stacking sats, vous l'aurez compris, de sats, ça vient de Satoshi, qui est évidemment le nom du créateur du Bitcoin, mais aussi l'unité de mesure la plus petite du Bitcoin, parce que un Bitcoin est égal à 100 millions de Satoshi, pour ceux qui nous écoutent qui ne le savaient pas. Et donc, stacking sats, c'est donc empiler des Satoshi, donc épargner du Bitcoin à long terme. Donc finalement, ce nom-là était parfait et correspondait parfaitement à notre vision. Donc ça, c'était à l'automne 2019. Et ensuite, du coup, je suis rentré à Paris, parce qu'en fait, j'avais quand même gardé mon appart à Paris, même si j'avais déménagé définitivement à Biarritz. Et de là, en fait, on s'est enfermé avec Joss pendant un mois chez moi pour réfléchir sur la strat. Et là, c'est pour le storytelling, et je te jure qu'on ne l'avait pas fait exprès. On a déposé les statuts donc fin 2019, et en fait, on a obtenu l'enregistrement de la boîte le 3 janvier 2020. C'est-à-dire que si on avait voulu l'écrire, ça ne serait pas arrivé. Donc pour ceux pareils qui nous écoutent et qui n'ont pas compris la référence, le 3 janvier 2020, c'est une année extrêmement symbolique, enfin c'est une date, pardon, extrêmement symbolique pour Bitcoin, parce que le 3 janvier 2009 a été miné le premier Bitcoin. Voilà. Donc on est très content que la boîte finalement ait été immatriculée ce jour-là. Et c'est évidemment parfaitement symbolique et on est évidemment très très fiers de ce symbole.
Trop cool, trop cool. Donc vous avez le nom, la boîte, la philosophie, vous êtes bien équipé, quoi.
Exactement. Exactement.
Ok, donc merci pour tout ce bon parcours. Donc si je résume un petit peu, c'est que en ayant commencé dans la finance, tu as finalement divergé petit à petit vers le Bitcoin. Là, à la rencontre de compagnies Bitcoin Only, ça t'a changé ton idée. Et toi-même, tu es parti là-dedans. Et puis, à force de travailler avec ça, bah, j'imagine que tu as trouvé une forme de satisfaction, puisque ça s'aligne avec tes désirs. Donc, il n'y a pas de mélange de d'autres cryptos. C'est assez concentré avec une vision assez claire.
Exactement. Alors après aussi, ce qui était parce qu'au-delà de la conviction Bitcoin only qu'on avait, ce qui était important, c'était de mener un projet entrepreneurial. Et là, pareil, les étoiles s'alignaient encore plus, d'autant que ça fitait parfaitement avec mon track record d'entrepreneur. Moi, j'ai créé un des premiers robo-advisors français, où notre objectif, c'était bah, justement de démocratiser des outils beaucoup plus sains. De produits d'épargne, notamment avec des ETF. Donc, je connaissais les stratégies d'acquisition de clients sur des produits financiers, donc à la fois en direct et en indirect, donc B2C et B2B2C. Donc, si tu veux, il y avait une vraie cohérence globale sur ce projet-là. Donc, si tu veux, donc on a créé la boîte à deux avec Joss. Donc, lui, en gros, l'expert Bitcoin, beaucoup plus technique que moi. Et moi, finalement, on va dire le businessman un peu plus marketing, bah, finalement, on était parfaitement complémentaires. Et c'est ça aussi qui m'excitait encore plus dans le sens où il y avait vraiment un terrain fertile pour créer une très belle boîte, quoi. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Du coup, on est très, 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 très content de ce parcours. Et le 3 janvier 2020, effectivement, c'est une année qu'on, enfin, c'est une date qu'on n'oubliera jamais.
Cool, très bien. Bah, vous partez bien, je pense que vous avez une bonne équipe. Puis, comme tu me disais avant l'interview, là, vous avez un plus grand afflux d'usagers. En parlant des usagers, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui serait, mettons, justement en train d'écouter et qui considère son premier achat? Tu sais, c'est quoi les mots que tu voudrais que cette personne entende de toi qui es justement le vendeur? Pourquoi tu voudrais qu'elle achète ton produit?
Alors, moi, en fait, ce que je dis souvent à des no-coiners, c'est déjà de comprendre ce qu'est la monnaie. Parce que déjà, en fait, 99% des gens, tout le monde s'en fout, en fait. C'est-à-dire que eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des euros dans la poche. Et ben, ils vont dépenser les euros pour acheter une pinte de bière au bar. Alors, pas en 2021, mais en 2025, lorsque, évidemment, les bars vont réouvrir et qu'on sortira de cette confinerie, n'est-ce pas? Mais si tu veux, les gens normaux ne se prennent même pas la tête de ce qu'est la monnaie, comment la monnaie est créée. Et voilà, donc en fait, le premier élément, c'est pour moi de leur donner quelques définitions de la création monétaire et de ce que ça implique. Et moi, en général, de manière assez caricaturale, je leur présente la monnaie comme une sorte de gâteau. Okay? Et ce gâteau, je leur dis, voilà, tu as un gâteau qui est donc la somme de la monnaie en circulation. Et aujourd'hui, comment fonctionne le système? Tu as des banques centrales qui, du coup, ont pour mission, soi-disant, notamment la stabilité des prix et également la stabilité de l'économie d'une zone économique. Donc, par exemple, la Banque centrale européenne, elle a pour objectif de maintenir une inflation à 2% et, du coup, avoir une croissance aussi en tout cas, à plus de 2%. Et il se trouve qu'en fait, cette banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle a aussi le pouvoir de créer de la monnaie à partir de rien. Donc, on reprend ce même gâteau. Donc, admettons, on a un gâteau qui vaut 100, et du jour au lendemain, potentiellement, ce gâteau, il va valoir 120. Et du coup, les euros que tu as dans la poche, eh ben, vu que le gâteau augmente, eh ben, la part que tu as de ce gâteau, forcément, elle va diminuer. Et donc là, en fait, les gens commencent à comprendre que le système aujourd'hui, tel qu'il est conçu, il est conçu pour que la monnaie perde de la valeur dans le temps. Donc ça, je leur dis, ça c'est la première chose que je leur dis, c'est la base de c'est quoi la monnaie? Et ensuite, je leur dis, Bitcoin, c'est quoi par rapport à ça? Bah, c'est exactement l'inverse. Dans le sens où la monnaie traditionnelle, tu as une quantité illimitée. Voilà. Donc potentiellement, la valeur de ton argent va perdre de valeur de manière illimitée. Et de l'autre, tu as le Bitcoin, qui a, lui, une quantité qui est limitée à 21 millions d'unités. Donc aujourd'hui, on en a un peu plus de 18,5 millions, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, cette création monétaire, elle est désinflationniste, mais en tout cas, elle va tendre vers 21 millions. Et donc, il n'y en aura jamais plus de 21 millions, donc il y aura justement un effet rareté. Et donc, a priori, en fonction de l'offre et la demande, eh bien finalement, la monnaie Bitcoin ne pourra structurellement, en tout cas avec ce schéma assez basique, que s'apprécier versus la monnaie traditionnelle qui ne peut que se déprécier dans le temps. Voilà. Donc en général, c'est ça que j'essaie de dire aux no-coiners, c'est de leur expliquer ce qu'est la monnaie, parce qu'en fait, en général, tout le monde s'en fout, ils n'ont même pas cherché à comprendre ce que c'était. Et leur expliquer justement le premier, pour moi, la première caractéristique de Bitcoin, c'est ce fameux 21 millions qui est très parlant et qui, s'il y a bien un truc à retenir, c'est celui-là selon moi. Et c'est la première pilule, la première piqueuse que je donne aux no-coiners.
Ok. Donc si je reprends rapidement, ça veut dire on peut voir l'argent comme la somme de l'argent comme un gâteau, et puis on peut voir quel genre de gâteau on veut. Est-ce qu'on veut un gâteau qui change pas de taille et puis notre part du gâteau ne change pas, ou est-ce qu'on veut un gâteau qui change de taille alors que notre part de gâteau change pas? C'est un peu ça
C'est
que
exactement ça.
ce serait ça le résumé.
C'est
Je pense
exactement.
que c'est un bon résumé, puis j'en ai parlé dans les épisodes précédents, donc je pense que les auditeurs vont pouvoir comprendre ce que tu dis. Peut-être une autre question pour aussi en parlant de tes clients. Quelles sont les difficultés que rencontrent tes clients aujourd'hui avec l'achat de Bitcoin? Est-ce qu'il y a des choses dont tu es conscient, sur lesquelles tu veux travailler, ou des choses justement qui sont derrière vous maintenant?
Alors ça, c'est évidemment une très très bonne question. Et nous, justement, lorsqu'on a lancé notre produit, notre ambition majeure était d'aller séduire des no-coiners, donc des débutants. Ça, c'était notre ambition. Après, on avait beaucoup de doutes sur le fait d'y arriver. Donc c'est pour ça que nous, notre objectif prioritaire, finalement, c'était d'aller chercher nos early adopters, donc des gens qui étaient crypto-friendly et qui comprenaient l'intérêt de stacker des sats de manière automatique. Donc c'est pour ça qu'on a d'abord, au tout début, lorsqu'on a lancé notre bêta, donc c'était, je crois, à partir du mois de juin, donc l'idée, c'était quand même d'aller séduire des bitcoiners et qui comprenaient l'intérêt de stacker des sats, et surtout, et ça, je pense qu'on y reviendra parce que c'est un peu plus subtil à comprendre, mais surtout d'avoir un service non custodial. C'est-à-dire où notre objectif était de faire en sorte d'avoir une solution extrêmement simple d'achat-livraison pour stacker les sats. Et donc, le prérequis indispensable pour tous nos clients, c'était justement d'installer un wallet Bitcoin. Donc, c'est pour ça que nous, notre a priori, c'était de se dire, un no-coiner, si tu lui dis, salut, la première chose que tu dois faire pour devenir client, c'est installer un wallet Bitcoin. On s'est dit que le mec allait être paumé et qu'il allait jamais rien comprendre. Et c'est pour ça que naturellement, on ne s'est pas trop orienté vers cette stratégie au début, même si c'était notre ambition. Et finalement, c'est là où on s'est rendu compte qu'on s'est clairement trompé sur cette a priori. Parce que là, aujourd'hui, du coup, là, on a fait un sondage, là, je crois, il y a à peu près une semaine ou deux, là, pour justement analyser un peu la typologie de nos clients. Et on voit qu'on a 50% des gens qui n'avaient jamais acheté de Bitcoin auparavant. Donc, 50% de nos coiners ont dépassé finalement cette peur, enfin cette peur, cet a priori de peur d'installer un wallet Bitcoin. Et on a été vraiment agréablement surpris de voir que bah, finalement, on a réussi à convaincre des gens d'installer un wallet Bitcoin. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que nous, par rapport à un Coinbase, où en gros, effectivement, tu peux acheter très facilement du Bitcoin et tu te rends même pas compte qu'en fait, les mecs sont c'est custodial et que justement, leur intérêt, c'est surtout pas que tu récupères tes Bitcoins. Bah nous, en fait, dès le début, on a réussi à faire comprendre aux gens l'intérêt, bah, finalement, qu'ils soient leur propre banque. Et donc, ça, c'est une des punchlines de Satoshi Nakamoto, c'est soyez votre propre banque. Soyez souverain de votre argent et de votre patrimoine. Et finalement, aujourd'hui, encore une fois, 50% de nos clients bah, sont des no-coiners et on a réussi à leur faire comprendre cette logique. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend tout bien parfaitement, mais on a réussi en tout cas vis-à-vis de ça. Donc, si on a 50% de no-coiners, on a quand même 50% de gens que moi j'appelle des crypto-friendly guys, des gens qui connaissaient déjà, qui en avaient acheté et qui viennent pour trois raisons principales. Parce que l'intérêt du DCA, donc du dollar cost average, je pense, le plus important, c'est d'éviter le FOMO, hein, donc le fear of missing out, la peur de rater le train, et surtout personne ne sait quel est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bon moment. En fait, le bon moment, c'est tout le temps. Et ça, d'ailleurs, ça va être l'objet. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu vas publier ce podcast, mais il se trouve que le 30 mars, on va faire une conférence là dans une école d'ingénieurs du coin, là, où justement, on va parler de cette fameuse question, parce que je crois que tout le monde me pose cette question de quel est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin.
Je confirme.
Et justement, hein?
je confirme, c'est la question qui revient
Voilà, donc ça
beaucoup.
c'est la question évidemment classique que tout le monde se pose. Et en fait, il y a pas de bon moment, en fait. Le bon moment, c'est tout le temps. Et d'ailleurs, tu as souvent des mèmes sur Twitter qui disent, voilà, en gros, les no-coiners, ils attendent une correction avant une correction à 3 000 $ avant de se positionner. Mais c'est-à-dire que ces mecs-là, en fait, finalement, ils n'achèteront jamais, quoi. Donc voilà, donc là, l'idée, c'était de proposer justement une solution de dollar cost average pour permettre justement de pallier à ce FOMO, donc à ce fear of missing out, la sensation de rater le train, ou en fait de se dire que en fait finalement ce sera jamais le bon moment parce que le prix est trop élevé et donc je ne veux pas en acheter. Donc voilà.
Comprends.
Donc je ne sais même plus d'ailleurs qui était la question, je crois qu'il y a la question, j'ai encore perdu le
C'était
fil,
sur
excuse-moi.
les difficultés des clients, puis tu es parti donc sur l'aspect custodien versus non custodien, et puis sur le fait que vous offriez un dollar cost average. Donc pour l'auditeur, le dollar cost average en français, ce serait la moyenne d'achat d'euros. Donc l'idée, c'est de faire un achat récurrent, donc à la semaine, aux 2 semaines, d'un même montant fixe. Comme ça, le prix d'achat qu'on a sur, mettons, une période de 6 mois, c'est un prix moyen. Ça permet d'éviter de se poser des questions de est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre. On sait qu'on a juste pris le prix moyen pour une période donnée. Ça, c'est le but de cette stratégie d'achat-là. Ça permet de ne pas stresser en fait et puis d'avoir un très bon prix. D'ailleurs, c'est souvent ça qui va donner un meilleur prix que d'essayer de trouver le bon moment. Donc c'est pour ça que cette stratégie est mise en avant. Peut-être une petite question. Tu as parlé de cet aspect important que les gens soient leur propre banque en parlant de termes custodial, non custodial. Peut-être si je peux faire le résumé de ça, ce serait de dire. Quand vous achetez des bitcoins, si vous n'avez pas un wallet qui vous est propre, ça veut dire que c'est la personne à qui vous avez acheté qui détient vos bitcoins. Donc en fait, vous n'avez pas de bitcoin. Ce que Stack Insats fait, c'est que si vous leur achetez des bitcoins, ils vont les envoyer directement dans votre wallet. Donc c'est un peu comme si vous achetiez, je sais pas moi, un sandwich, ben vous l'avez directement en main et vous pouvez partir du magasin. Dans d'autres sites de vente, ce qui peut arriver, c'est que vous achetez un sandwich, mais les gars, ils vous le gardent pour vous. Mais donc ce n'est pas vraiment votre sandwich si on veut.
Je connaissais pas cette analogie au sandwich,
sais pas si c'est
mais
un
je
bon
la
exemple,
valide.
mais c'est l'idée. Ok, cool. Peut-être une prochaine question. Quelle est la vision que tu aurais du Bitcoin demain? Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu l'as bien précisé, c'est un moyen d'avoir sa part de gâteau constante sans qu'elle perde de valeur. Est-ce que tu as une vision, une idée de où le Bitcoin se rendrait peut-être dans quelques années? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi déjà?
Ah, mais c'est une question évidemment fondamentale et qu'on a réfléchi depuis les débuts avec Joss. Hein. Et ça, en fait, pour te répondre, nous, notre objectif, et ça, en fait, on nous pose souvent la question, donc c'est pour ça que je vais l'aborder tout de suite, sur est-ce qu'un jour, on proposera d'autres crypto-monnaies, est-ce qu'on proposera des shitcoins? Donc la réponse est évidemment non. Aujourd'hui, effectivement, il y a une hype très importante sur les shitcoins. Tu as beaucoup de plateformes d'exchange ou de brokers qui vont proposer un maximum de shitcoin parce que eux, leur intérêt business, c'est d'avoir un maximum de commissions. Donc évidemment, d'un point de vue business à court terme, c'est une excellente idée entrepreneuriale dans le sens où l'objectif, c'est de maximiser le profit et donc d'engranger le maximum de commissions. Donc nous, on fait un pari à plus long terme. Donc c'est un pari un peu plus risqué, c'est clair. Mais nous, on est convaincus que les autres cryptos, finalement, alors il y en aura certainement certaines qui vont, comment dire, continuer d'exister, mais la grande majorité de ces autres cryptos, selon nous, va simplement disparaître. Et c'est pour ça que moi, je considère souvent Bitcoin, et je le compare souvent au protocole TCP/IP qui était Internet. Dans les années 1990, où il y avait énormément de protocoles à ce moment-là, au début d'Internet, et finalement, il n'y en a qu'un seul qui a survécu, et c'est le protocole TCP/IP. Donc pour nous, Bitcoin, ce sera le protocole TCP/IP de l'échange de valeur. Et en gros, ce que peu de gens finalement savent, c'est-à-dire que toutes les innovations qu'on voit dans les cryptos, soi-disant parce que Bitcoin, c'est pas bien, etc., et ben finalement, en fait, on peut tout faire sur Bitcoin. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, et finalement, Bitcoin, c'est une fondation extrêmement solide sur laquelle il va y avoir des différents niveaux. Donc, après, on pourra revenir plus tard, hein, mais il y a notamment le Lightning Network, le Layer 2, et on parle aussi du RGB qui serait un Layer 3. Et nous, en gros, pour te répondre, la vision de la boîte, elle est clairement de créer un écosystème de produits et de services autour du Bitcoin. Donc aujourd'hui, d'un point de vue business, l'idée, c'était de capter, comment dire, le use case de Bitcoin aujourd'hui. Le use case de Bitcoin, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'aspect réserve de valeur. Donc en gros, avec votre téléphone, vous allez très simplement pouvoir utiliser, en tout cas profiter de ce use case qui est celui de la réserve de valeur en stackant des satoshis. Donc ça, finalement, c'est le truc assez basique de réserve de valeur, de store of value, qui est le use case aujourd'hui, où d'ailleurs tout le monde a tendance à s'accorder sur ce use case, hein. D'ailleurs, donc je vais citer Tesla qui a acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin, MicroStrategy et d'autres entreprises du Nasdaq, et certainement d'autres vont suivre cette année, qui ont bien compris cet aspect protection du patrimoine, protection contre la perte de valeur des monnaies fiduciaires. Donc ça, je pense que maintenant, ça devient assez unanime. Maintenant, en fait, je pense que la next step, ce sera de faire comprendre que Bitcoin, et c'est d'ailleurs ce que Satoshi Nakamoto voulait depuis le début, hein, c'est que Bitcoin devienne vraiment une monnaie d'échange. Et nous, on en est archi convaincus. C'est-à-dire que ce n'est qu'une question de temps. Et après, pour revenir d'ailleurs à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux monnaies digitales de banque centrale, donc moi, évidemment, je suis farouchement contre cette idée-là, mais en même temps, je suis archi pour qu'elle existe, parce que pour moi, ce sera une publicité extraordinaire pour le Bitcoin. C'est-à-dire que les gens vont comprendre au fur et à mesure, parce que je pense que les gens ne sont pas débiles, et ils vont comprendre en fait tous les méfaits et tous les risques qu'implique une monnaie digitale de banque centrale. Donc évidemment, aujourd'hui, on a la monnaie digitale de banque centrale de la Chine. Et donc évidemment, pour des Chinois, un pays un peu totalitaire, même si je pourrais nuancer ce propos, mais c'est plus adapté justement à des dictatures ou à des pays totalitaires. Alors évidemment, les défenseurs des monnaies digitales de banque centrale vont dire oui, mais on peut mettre des garde-fous, etc., machin, bullshit. L'objectif, c'est ça la puissance de Bitcoin, c'est son côté décentralisé. C'est-à-dire que les politiques avec une monnaie digitale de banque centrale vont faire des promesses, et évidemment on sait que les politiques en général ne tiennent jamais leurs promesses, alors que Bitcoin, la décentralisation, elle est inscrite dans son code source, et que personne ne pourra aller à l'encontre de ce qui a écrit dans le code source. Et c'est ça qui est très très puissant dans Bitcoin, donc c'est le deuxième aspect qui est très très fort et que en général j'essaie de véhiculer auprès des no-coiners et de mon entourage, c'est le côté décentralisé. Et Bitcoin, évidemment, cette caractéristique est donc très très forte. Pour nous, on considère que ça va permettre de passer du coup au deuxième niveau de Bitcoin, qui est le Lightning Network, qui va permettre de résoudre certains problèmes de Bitcoin pour que ça devienne une vraie monnaie, notamment sa scalabilité. Très rapidement, pour reprendre ce point-là, pour que tes auditeurs comprennent bien, aujourd'hui, globalement, Bitcoin, tu as un bloc qui est miné toutes les 10 minutes en moyenne. Okay? Donc si par exemple tu veux acheter ta baguette de pain, bah, la boulangère en face de toi, elle va devoir attendre 10 minutes avant d'être certaine que sa transaction est validée. Donc du coup, le cas d'usage n'est pas ouf. Avec Lightning, qui est une technologie donc, de deuxième niveau, ça va permettre de rendre les paiements Bitcoin instantanés. Donc nous, Stack Insat, donc ça ce n'est pas un scoop parce que d'ailleurs en fait on a communiqué dessus sur Twitter je crois, nous on va investir notre R&D sur Lightning, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre le paquet.
Ok.
Donc d'ailleurs on va travailler avec des écoles d'ingénieurs et des universités sur le protocole Lightning. Parce que nous on est convaincus, et pas que nous hein, d'ailleurs, hein, d'autres boîtes et notamment Strike de Jack Mallers que j'admire beaucoup, parce que je pense qu'il a totalement compris la vision de Satoshi et qu'on partage évidemment. Et pour nous, cette vision-là, elle passe nécessairement par le Lightning. Et donc en fait, le Lightning aussi, donc pour y revenir après, c'est peut-être un peu plus technique, mais tous les défauts qu'on peut reprocher au Bitcoin sur l'aspect que ça consomme trop d'énergie, etc., et ben là, le Lightning vient tuer ces arguments-là. parce que ça va rendre les frais quasi inexistants, en tout cas beaucoup, beaucoup plus faibles. Donc l'impact environnemental lié au Lightning, il est extraordinaire, quoi, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
Ouais,
Pareil, je suis
super.
en roue libre à chaque fois, mais...
Non, mais c'est pas grave. Moi, je suis. Puis je pense que, en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais il y a un fil continu dans ce que tu dis. Mais c'est
D'accord,
que
ok.
ma question à la
Cool.
base, c'était quelle est votre vision du Bitcoin dans le futur? Puis tu as
Ouais.
commencé par revenir sur le présent en disant, bon, ben, aujourd'hui, le Bitcoin, principalement, c'est une réserve de valeur. Donc, c'est ça le service qu'on offre. Après, on sait que de la réserve de valeur, on va transiger vers un Bitcoin qui devient une monnaie d'échange. Et donc, vous voulez vous positionner comme une compagnie de service par rapport à ça. Donc, votre pari, c'est en gros de tout miser sur le Bitcoin, de devenir des experts là-dedans, d'investir même en R&D là-dedans pour avoir une position stratégique bah, très importante dans le futur. Puis personnellement, je pense que c'est un très bon pari, donc je suis très content de l'entendre.
Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, tant mieux. On est toujours des entrepreneurs, on est toujours considérés des fois comme des illuminés ou un peu des tarés, etc. Bon, ça, j'ai l'habitude, parce que dans ma précédente boîte aussi, on me disait, mais jamais tu vas y arriver, etc. Donc, ça, c'est un très grand classique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que pour ne rien te cacher, là, on est en pleine levée de fonds. Et effectivement, certains VC ne comprennent pas du tout ce que je viens de te dire, quoi. C'est-à-dire que pour eux, ça les dépasse, quoi.
Ouais.
Et évidemment, quand ils vont réaliser ça,
Ce sera trop
Et
tard.
ben ce sera trop tard. Mais bon, ça, c'est un grand classique. Et évidemment, c'est ceux qui auront compris bien avant qui, du coup, vont toucher les bénéfices de cette prise de risque.
Ouais, ouais.
Et pour le coup, c'est très important et c'est inscrit dans l'ADN de la boîte, dans l'ADN des cofondateurs. Et ce truc-là, on n'y dérogera jamais. Et c'est-à-dire que si nos actionnaires ne sont pas alignés avec cette vision-là, eh ben, on n'a pas envie d'eux, en fait. Et on va pas perdre de temps à essayer de les convaincre. Et c'est vrai que souvent, c'est un petit peu l'écueil que j'ai aujourd'hui, c'est que, en fait, aujourd'hui, on est plus en train d'essayer de les former, en train d'essayer de les convaincre. Et en fait, souvent, on perd du temps, en fait. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'essayer de trouver des gens qui sont déjà convaincus, qui ont une vision identique à la nôtre. Et c'est ce que, d'ailleurs, on est en train de faire en ce moment. Et c'est beaucoup plus efficace. Plutôt que d'essayer de convaincre indéfiniment des gens en fait qui seront jamais convaincus ou qui seront convaincus dans 5 ans lorsque ce sera trop tard en fait.
Ouais, je comprends bien. C'est un petit peu. J'avais lu des articles sur le sujet. C'est des analogies qui avaient été prises. C'était d'imaginer la conquête du continent américain quand on est juste sur la côte est et qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a jusqu'à la côte ouest. Bah, les premiers qui partent, ils ont l'air de fous, mais quand ils disent qu'il y a des richesses à trouver là-bas, ben, personne n'a envie de les
Voilà.
suivre. Mais en fait, c'est eux qui ont raison parce que c'est eux qui sont allés explorer l'inter inconnu. Puis ils parlent pas à partir de rien, quoi. Et là, c'est un peu la même analogie, c'est que l'actionnaire traditionnel ou l'investisseur traditionnel ne comprend pas. Continent en fait qui est en train d'apparaître ne veut pas aller chercher les richesses là-bas, alors que probablement c'est sur ce continent-là que toute la mesure de valeur future de l'humanité va se baser. Donc il y a un gros manque à gagner pour ces personnes-là.
C'est clair, c'est
Ouais.
clair, c'est clair. C'est d'ailleurs triste, mais bon, c'est comme ça. Et puis de toute façon, nous, on le vit avec philosophie, hein. Et on avance tranquillement dans notre côté, parce que nous, on a la chance d'être des vrais passionnés. Et si tu veux, on bosse du lundi au dimanche, et en même temps, on n'a vraiment même pas l'impression de bosser, en fait. C'est ça qui est
Ouais,
dingue.
j'imagine.
Et c'est ça qui est ouf dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est quand tu as trouvé ce truc-là, en fait, le taf, c'est même pas une contrainte, c'est juste une passion. Et quand tu as trouvé ce que je dis souvent, c'est ce que j'appelle l'ikigai, je sais pas si tu connais, c'est un truc
Ouais.
japonais. Et clairement, nous, on a la chance d'avoir trouvé notre ikigai. Et ça, je pense que c'est la volonté de chaque être humain. Et souvent, lorsque tu es entrepreneur, je pense que tu trouves ton ikigai. Voilà. Donc, ça, c'était une petite parenthèse.
De parenthèse pour la Startup Nation. Non,
Voilà.
je déconne. Ok, peut-être une petite dernière question avant de commencer à clôturer. Ça, c'est plus une question impact social du Bitcoin, parce que c'est quand même quelque chose sur lequel moi je réfléchis, puis qu'on me pose comme question, c'est est-ce que tu penses que le Bitcoin va plutôt diminuer ou accroître les injustices? Ici, oui, comment, pourquoi? Qu'est-ce que c'est ton avis sur le futur de l'humanité d'un point de vue plus social? Est-ce qu'on va avoir plus d'harmonie,
Alors, ça,
plus de
c'est
chaos?
évidemment difficile, une question très difficile et délicate que tu poses, mais qui est évidemment très pertinente et qui, d'ailleurs, petite parenthèse, sera abordée dans la prochaine édition de Surfing Bitcoin qui aura lieu les 26 et 27 août à Biarritz. Surfing Bitcoin, c'est une conférence qui permet de démocratiser et de vulgariser Bitcoin et d'expliquer Bitcoin à la fois sur les bases et sur justement ce que Bitcoin peut devenir. Et donc, pour répondre à ta question, après, il y a plusieurs notions qui peuvent rentrer en ligne de compte, notamment une notion de croissance versus décroissance. Et moi-même, j'ai été baigné là-dedans dans mes études sur l'économie keynésienne. Parce que l'économie keynésienne, ça dit quoi? Ça dit la monnaie dette, c'est extraordinaire, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir de la croissance, notamment à partir de la consommation. Donc, en gros, c'est tu t'endettes pour consommer encore plus. Sauf que ça, en fait, ça a un cercle pour moi qui est très très mauvais, parce que ça t'oblige à penser à court terme. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que les entreprises aujourd'hui, du coup, elles se focalisent principalement sur le court terme, et notamment, on voit toutes les conséquences négatives sur l'écologie et sur l'environnement. Et donc, Bitcoin, quand tu réfléchis bien, quand tu prends un peu de hauteur, finalement, on peut assimiler ça un peu à de la décroissance. Pourquoi je dis ça? C'est que la décroissance, l'objectif, c'est, contrairement à la croissance, qui est d'inciter à la consommation. Finalement, Bitcoin, si on est cohérent dans notre logique, théoriquement, Bitcoin va continuellement monter, a priori, pour les raisons qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Et donc, si ça veut dire que le Bitcoin monte, c'est-à-dire que tu n'es justement pas incité à consommer. D'où l'aspect de décroissance. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir.
Moi, je vois très bien, j'arrête pas de le répéter.
Ben voilà. Donc,
Je
tu
vois
as un
très
peu
bien,
ce
oui.
côté-là qui peut être compliqué à comprendre dans notre système, parce que ce n'est pas du tout notre schéma mental d'aujourd'hui. Mais je pense que, et il faudrait le voir, il faudrait l'étudier, je ne suis pas économiste, etc. Mais en tout cas, clairement, du coup, dans Surfing Bitcoin, je pense qu'on va vraiment aborder ce point-là. Mais en tout cas, logiquement, si on est cohérent dans tout ce qui se passe autour du Bitcoin et dans l'industrie du Bitcoin, on ne sera pas incité à le consommer. Voilà. Donc ça répond quand même un petit peu, je pense, à ta question. Donc on peut arriver vers une société. En tout cas, tendre vers une société de décroissance qui, pour moi, sera beaucoup plus bénéfique pour notamment l'écologie et l'environnement, qui est évidemment un sujet d'actualité, qui sera peut-être d'ailleurs un sujet de la présidentielle en France. Et peut-être que Bitcoin, on ne sait pas quel sera le prix du Bitcoin en 2022, l'année de la présidentielle, mais ça peut être un sujet que les politiques pourraient prendre, et ça serait d'ailleurs très très intéressant.
Ouais, mais je crois que si ça passe à ce niveau-là de discussion, c'est trop tard pour acheter, même pour les gouvernements. Mais oui,
Mais
mais en tout cas,
voilà, donc après je dis
c'est...
ça, je m'enflamme peut-être un peu court en disant ça, mais clairement cette notion de décroissance, je pense, est intéressante. Donc pour moi, pour répondre, tu vois, sur le truc d'inégalité, je pense que ça ne peut que les réduire. Parce que quand tu vois aux États-Unis, je ne sais plus exactement la stat, enfin il faudrait la retrouver, mais
En tout cas, ce serait
je crois que
une
c'est
minorité de la
1%.
population possède une majorité des richesses. Qui font
Voilà,
qu'on...
merci. Donc là, je suis fatigué, désolé, mais tu as compris l'idée.
Ouais.
Et donc, je pense qu'avec Bitcoin, on pourrait inverser cette tendance. Voilà. Donc, contribuer à la réduction des inégalités.
Ouais, j'ajouterais à ça aussi, avant de clôturer, je me suis fait la réflexion l'autre jour. Si, mettons, justement, comme tu es assuré que ta monnaie ne perd pas de valeur, voire en gagne dans le futur, tu pourrais être rendu à un moment dans ta vie où, mettons, tu sais que tu as suffisamment d'argent pour assurer tous tes besoins jusqu'à ta mort. Tu vois, donc tu aurais, je sais pas, 150 ans de ressources disponibles, et tu sais que c'est 150 ans de ressources disponibles. Je me suis dit, à ce moment-là, mettons que tu as envie de léguer tes bitcoins à tes enfants. Imaginons que tu as 100 bitcoins, tu sais que tu peux vivre 150 ans avec ça, et tu veux les léguer à tes enfants. Donc tu pourrais soit leur léguer 100 bitcoins à ta mort, soit tu pourrais leur léguer 90 bitcoins et en donner 10 à juste des gens qui veulent faire des projets. Si tu donnes 10 à des gens qui veulent faire des projets, eh bien, ça va augmenter la productivité humaine, il y aura plus de ressources, plus de sciences, plus de choses qui existent. Et donc, dans le futur, les 90 bitcoins que tu vas donner à tes enfants auront un plus grand pouvoir d'achat que si tu n'avais pas donné tes 10 bitcoins à la base. Tu vois. Tu pourrais même imaginer
Complètement.
une société, enfin moi je pense qu'on peut aller dans cette direction-là, une société plus basée sur le don, simplement parce que tu sais à un certain point que tu as ce qu'il te faut, quoi. Et donc tu peux commencer à donner aux autres. Parce que ça va donner encore plus de le faire, tu vois.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
Je lance cette idée dans la mare. Je me dis peut-être que si elle résonne,
Mais en
ça
tout
va
cas, voilà, et ça,
peut-être
et pour
marcher.
revenir justement à Bitcoin, parce que c'est ça qui est passionnant dans le Bitcoin, c'est que finalement, c'est un, comment dire, c'est un actif qui reflète plein de choses en même temps. Donc, c'est économique, philosophique, financier, politique. Et c'est vraiment un univers passionnant, surtout pour les entrepreneurs, quoi. Donc oui, c'est pour ça qu'on est très content d'organiser notre conférence Surfing Bitcoin qui nous tient à cœur, parce que du coup, on va aborder tous ces sujets-là qui sont mal abordés ou mal expliqués. Et donc nous, ça nous tient vraiment à cœur d'aborder tous ces sujets-là en profondeur. On aura le temps cette fois sur 2 jours de parler de tous ces sujets-là, encore une fois avec des intervenants de qualité, qui pourront du coup débattre et approfondir. C'est tous ces sujets-là.
Super, super. Alors, avant de terminer, petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et quelles sources d'informations tu consommes sur le Bitcoin? Comme ça, l'auditeur qui serait intéressé à pareil, se renseigner par lui-même pourrait peut-être suivre tes pistes.
Bien sûr. Alors, du coup, pour me suivre, c'est assez simple, hein. J'ai un site web, c'est stackinsat.com, hein. Ensuite, on a tous nos réseaux sociaux, donc à la fois sur Twitter, on est sur Instagram également. Et où est-ce que je me renseigne sur les informations Bitcoin? Donc, j'ai envie de te dire principalement Twitter. Parce que moi, en fait, je suis vraiment un twittos depuis très longtemps, depuis 2011. Et j'ai toujours trouvé Twitter comme étant une source d'information beaucoup plus pertinente que toutes les autres. Parce qu'en fait, ça te permet de creuser, de voir différents points de vue et de te forger ta propre opinion. Sinon, en France, moi, je vais faire un peu de pub pour le copain Grégory Raymond, surtout qui a subi quelques mésaventures ces derniers temps. Grégory Raymond, qui a la newsletter 21 millions, qui parle de Bitcoin et de shitcoin aussi, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est une très bonne source d'information parce que c'est un journaliste vraiment de qualité qui travaille ces sujets. Après, je vais aller citer mes autres copains du journal du Coin parce qu'on travaille beaucoup avec eux. Et puis également Cryptost qui produit un contenu également très intéressant. Donc voilà, donc là c'était évidemment du contenu francophone.
Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup, Jonathan. Merci pour cette
Merci à
entrevue. J'ai beaucoup appris de choses. Je suis content d'avoir pu te rencontrer. Puis je te dis à la prochaine.
Merci Emmanuel, salut.